Bonjour Blockbuster, c'est Marie de Lyon. J'étais en train d'écouter le replay sur l'émission Die Hard et vous avez commencé par la traduction en fait du titre de Die Hard comme celui qui meurt difficilement. Mais est-ce que ça pourrait pas être celui que l'on a du mal à tuer ou celui ou celle ou ceux qui meurent dans d'atroces souffrances? Réflexion.
Moi aussi, je voudrais faire comme certains auditeurs qui se plaignent de l'absence d'une référence à propos du sujet du jour et de trouver ça totalement indigne. J'aurais voulu rappeler que Maurice Leblanc, dans les bouquins d'Arsène Lupin, avait inventé un anti-héros policier qui s'appelait Sherlock Holmes. Et moi, j'ai trouvé que c'était le plus beau clin d'œil qui était juste fait à Sherlock Holmes.
Bravo pour cette émission. J'ai découvert le podcast via l'épisode de Stranger Things que j'ai bien apprécié et donc je me devais de commenter. Étant né en 1974, je suis parfaitement dans la cime de cette série que j'ai découvert dès la première saison. On sent qu'il y a une vraie tendresse envers cette période. Ce qui m'a, moi, surtout marqué, c'est la manière dont ils arrivent à résoudre des énigmes dénuées totalement de technologie. Et là, on voit que l'intuition et les rapports humains sont vraiment majoritaires et finalement les plus importants. Donc voilà, bonne continuation à tous et, comme qui dirait, never ending story.
Et pour finir, une petite suggestion, si vous pouviez faire une émission sur Desperate Housewives, je kifferais. Bisous, bel été à tous, ciao.
Not to be. Scarlett Johansson vient de déclarer qu'en tant qu'actrice, elle devrait avoir le droit de jouer n'importe qui, n'importe quel arbre ou n'importe quel animal, parce que c'est son métier et que c'est ce que ce métier exige. Alors, outre que cela explique son interprétation dans le film Lucy, où elle avait d'ores et déjà décidé d'interpréter un ficus, ça soulève l'éternelle question de savoir s'il faut un acteur asiatique pour interpréter un personnage asiatique, un acteur homosexuel pour jouer un personnage homosexuel, ou un acteur noir pour jouer un personnage noir. En même temps, même si Tom Hanks a beaucoup de talent, si on le prend pour jouer le biopic de Barack Obama, je ne le cache pas, je vais un peu tiquer. Scarlett a raison. Le propre du métier d'acteur, c'est de faire croire qu'il est autre chose que lui-même. C'est la magie du jeu et la suspension d'incrédulité du spectateur. Si on avait dû caster un acteur authentiquement poilu pour jouer Chewbacca dans Star Wars, ou attendre d'en rencontrer un autre avec le physique de Maître Yoda, on n'aurait jamais fait le film. Donc oui, Scarlett Johansson peut jouer le Major Motoko Kusanagi dans Ghost in the Shell, Natasha Romanoff, l'espionne russe dans Avengers, elle peut même jouer une enceinte connectée dans Her, elle peut tout et a le droit de tout jouer. La vraie question finalement, c'est de savoir si un acteur ou une actrice noire, homosexuel, indien ou indienne, asiatique, a lui le droit de tout jouer, lui ou elle, le droit de tout jouer. Quand on est issu de la diversité, je fais des gros guillemets avec mes doigts, peut-on se présenter à n'importe quel casting s'il n'est pas précisé dans ce dernier qu'on recherche un acteur noir ou autre? Eh bien la réponse est non. Donc finalement le problème, ça n'est pas que Scarlett puisse tout jouer, c'est que d'autres qu'elle n'aient pas forcément la possibilité de jouer grand chose.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Tu n'as pas un sou en poche.
L'attachement matériel est un détachement spirituel.
Je le dirai à la sandwicherie. Ils te font peut-être un jambon beurre métaphysique.
Minute. Je crois que j'ai 200.
Dollars ?
Roupies.
Autrement dit ?
1,50 $.
Tu veux quoi ?
Je ne dirai pas non à un sandwich autant.
Qui ?
Si il n'a fallu qu'un claquement de doigts au titan Thanos dans le film Avengers Infinity War pour effacer la moitié de l'univers, il aura fallu à peine plus de temps à Marvel Studios pour effacer toute concurrence à Hollywood. Depuis 10 ans, en 23 films, ce studio enchaîne succès sur une cadence de production quasi industrielle. Là où les spécialistes du cinéma prédisent depuis des années une lassitude vis-à-vis des films de super-héros, force est de constater que chaque film Marvel, plébiscité ou non par la critique, continue d'exploser les chiffres du box-office. Pourtant, cette insolente réussite cache une réalité peut-être plus inquiétante. le cinéma hollywoodien va mal et Disney est dans une situation inédite de monopole, comme rarement un studio ne l'a été dans l'histoire du divertissement. Et pour parler de tout cela, j'ai à mes côtés Kira Kitsopanidou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, chercheuse à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Vous êtes spécialisée dans l'économie du cinéma, notamment du cinéma américain, professeure à la Sorbonne Nouvelle et chercheuse à l'IRCAV, l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, spécialiste de l'économie du cinéma et de l'audiovisuel, et vous préparez actuellement un livre collectif sur les franchises au cinéma. Et vous avez publié en 2016 une histoire du cinéma américain, stratégie, révolution et mutation aux éditions Armand Collin avec Joël Ogros. C'est ça ?
Tout à fait.
J'ai réussi. Avec nous également Captain Popcorn, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes spécialiste en pop culture et vidéaste, on peut d'ailleurs retrouver toutes vos vidéos sur la chaîne YouTube qui porte votre nom, Captain Popcorn, c'est ça ?
Exactement.
Également avec nous Arnaud Tomassini, bonjour.
Hello.
Vous êtes rédacteur en chef du site Comics Blog et membre du réseau Arts qui réunit les sites Comics Blog, Sci Fantasy et 9ème Art.
C'est ça.
Et enfin, Jimmy Bismuth, bonjour.
Bonjour à tous.
Gérant de la librairie Comics Corner qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. Alors ensemble, on reviendra sur le pari qu'a constitué la création de Marvel Studios, son évolution, du casting de Robert Downey Jr. au box-office dantesque d'Avengers Endgame, le rachat de Marvel par Disney, la stratégie d'univers partagé voulue par ce producteur énigmatique qu'est Kevin Feige. On parlera de l'évolution du paysage des blockbusters et on s'inquiétera, ou non, de cette situation de monopole dans laquelle se trouve désormais l'entreprise Disney. Allez, bienvenue dans le monde des chiffres avec plein de super-héros.
Titan était comme bien des planètes. Tellement de bouches à nourrir et si peu de ressources. Quand nous avons frôlé l'extinction, j'ai offert une solution.
Un génocide.
Mais aléatoire, impartial et équitable entre les pauvres et les riches. On m'a traité de malade mental. Et ce que j'avais prédit s'est finalement produit.
Félicitations, vous êtes un prophète.
Je suis un survivant.
Qui veut la mort de trillions d'êtres ?
Avec les six pierres, il me suffirait d'un claquement de doigts pour qu'ils cessent tous d'exister. J'y vois une sorte de bienveillance.
Et après ça ?
Je pourrais me reposer et voir le soleil se lever sur un univers reconnaissant. Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage.
Vous allez voir que notre courage est égal au vôtre.
C'était un extrait d'Avengers Infinity War réalisé par les frères Russo, un échange entre Doctor Strange et Thanos, respectivement interprété par Benedict Cumberbatch et Josh Brolin, et doublé en français par Paul Born et Jérémy Covillo. Alors, on va repartir un petit peu dans le passé, parce que c'est vrai qu'à une époque où Marvel enchaîne les cartons, les succès, on a l'impression qu'il n'y a presque plus qu'eux au cinéma, il faut repartir 10 ans en arrière, et avec une maison d'édition, on va partir sur les comics, Marvel, qui était au bord de la banqueroute, Arnaud Tomassini.
Oui, bon, c'était la banqueroute, c'était plutôt dans les années 90, mais c'est clair que il y a 10 ans, quand l'ensemble en fait de la production super-héroïque commence à comprendre en fait tout l'intérêt qu'il y a à faire des films de super-héros, on a Marvel qui avait réussi à se renflouer en vendant les droits de ses personnages les plus populaires à d'autres studios, donc les X-Men qui étaient partis vers la Fox avec les Fantastic Four, Spider-Man qui était chez Sony Pictures, et donc voyant que tous les films marchaient énormément, puisque t'as les X-Men de Bryan Singer ou le Spider-Man de Raimi qui cartonnaient au cinéma, ils se disent bah nous aussi il faut qu'on prenne le train des films de super-héros, seulement il leur restait plus leurs personnages les plus populaires qui avaient été vendus à côté. Et donc ils ont dû un peu créer en fait une demande pour des héros et donc ils sont partis sur les Avengers en se disant que le premier film qu'ils allaient faire c'était Iron Man et avec l'idée vraiment de construire ce qu'on a déjà dans les comics, un univers partagé, c'est-à-dire qu'on peut se faire rencontrer dans un même film des personnages qui sont issus de différentes autres opus.
Et alors, il faut savoir que pour financer cet Iron Man, ils sont obligés de brader, de mettre en hypothèque leur personnage, la licence de Doctor Strange et de Black Panther, pour que les films puissent se faire financer.
J'ai pas le détail de cette histoire-là.
Ah bah voilà, c'était alors révélation. Et ils ont été obligés d'hypothéquer ces licences. Alors ils les ont récupérées depuis, mais pour pouvoir financer le premier Iron Man, qui était un pari parce que non seulement il est réalisé par Jon Favreau, mais il y a le casting, un casting qui va être déterminant pour l'avenir de Marvel Studios, le casting de Robert Downey Jr. qui à l'époque est revenu sur le devant de la scène avec Kiss Kiss Bang Bang, réalisé par Shane Point Break, mais qui a autour de lui la réputation d'être ingérable, toxicomane, et donc c'est un retour en grâce. Ça a été très controversé à l'époque, l'idée de faire la figure de proue des Avengers, Robert Downey Jr.
Alors en fait, c'était plutôt malin et peut-être même limite très éclairé de leur part, parce que finalement, le personnage de Tony Stark, Iron Man, il est un peu comme ça. Il est un peu extrêmement controversé. C'est un alcoolique addict aux femmes qui a de nombreuses addictions. Et du coup, le caster, lui, c'était un coup de poker, c'est certes. Et si ça marche, ce qui a été le cas, et ben ils avaient tout gagné. Si ça rate, ils auraient très bien pu se cacher derrière ça en disant, voilà, on a casté celui qui correspondait le plus au personnage du comics. Donc ne nous en voulez pas d'avoir voulu être fidèle au matériau d'origine.
Et Kira Kitsopanidou, à cette époque, au niveau des blockbusters et des franchises, on n'est pas encore dans ce monopole de la culture du film de super-héros. Les franchises qui fonctionnent au début des années 2000, c'est pas encore totalement ça.
C'est pas à ce niveau-là de performance économique, en tout cas. Quand on compare ce qui se passe entre Avatar, par exemple, qui a été à la fin des années 2000 le gros blockbuster qui s'est constitué ensuite comme franchise, et ce qui vient de se passer avec Endgame, on est vraiment sur des écarts de vitesse d'accès à ces sommes colossales du box-office assez importantes. Si vous voulez, je peux vous donner des exemples.
Mais allez-y.
Aujourd'hui, Avatar n'est pas encore détrôné par Endgame. En revanche, si on prend l'exemple de la situation française, en 12 mois, Endgame a fait quasiment la moitié des entrées d'Avatar. Alors que quand on compare le box-office mondial et quand on compare les recettes américaines, ça se vend encore, c'est assez équivalent. Mais c'est la vitesse qui a changé.
Oui, c'est-à-dire que maintenant, c'est presque en 3 semaines, on atteint facilement le milliard. Et quand je dis facilement...
5 jours.
5 jours, voilà. 5 jours.
C'est des milliard de dollars hallucinants à l'échelle mondiale.
Pour un film qui fait 2h45, 3h.
3h, oui.
C'est, donc ça veut dire que non seulement il y a une attente, mais il y a des préventes. C'est le parcours qui a été effectué par Marvel Studios depuis Iron Man, il est phénoménal. Et alors, à la fin d'Iron Man, il y a l'introduction une porte ouverte vers l'idée d'univers partagé. Captain Popcorn, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est cet univers partagé ?
Un univers partagé, ça va être réunir plusieurs personnages au travers de différents films. Généralement, on profite d'un film pour introduire un nouveau personnage, pour créer de l'attente pour les suivants. Comme l'a très bien dit l'acteur de Captain America,
Chris Evans,
en fait, c'est un petit peu comme si c'était un artificier, Kevin Feige, qui avait tiré des tas de fusées en même temps. Il a réussi à les faire exploser dans un final incroyable avec les deux derniers Avengers. Et c'était quand même, en termes de timing, on sait qu'il avait tout ça dans sa tête quasiment dès le début, hein, puisque lui il était déjà un peu producteur sur les premiers X-Men, mais il a pu vraiment mettre en place ce qu'il avait en tête à partir de 2008 avec Iron Man et tout ce qui a suivi.
Et qui correspond aussi au départ d'Avi Arad de la tête de Marvel Studios.
Exactement, puisqu'il est devenu après, il est devenu président de Marvel Studios, qui est ce sacré Kevin dont on va reparler sans doute avec sa casquette. Pas très mystérieux, moi je trouve d'ailleurs, parce que c'est un des producteurs qu'on entend le plus parler, qu'on voit le plus, mais très intéressant en tout cas.
Ah, mais c'est pas parce qu'on voit quelqu'un beaucoup qu'on sait énormément de choses de lui.
T'as des dossiers.
Oui, j'ai des dossiers. Bon, allez, on va continuer de parler de Marvel Studios, mais pour le moment, on va écouter AC/DC avec Back in Black. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mansip, et à la technique aujourd'hui, Johanna Gabric et Grégory Wallon. We'll be right back. C'était AC/DC dans Blockbuster sur France Inter.
Quand la bataille prit fin, j'entrai dans leur temple et y trouvai un bébé. Petit, pour le descendant d'un géant. Abandonné, souffrant, voué à la mort. Le fils de l'Orphée.
Le fils de l'Orphée.
Oui.
Pourquoi ? Vous pataugiez dans le sang des Jotuns. Pourquoi m'avoir amené ?
Tu étais un enfant innocent ?
Non. Vous aviez forcément un but. Mais lequel ? Dites-le-moi !
J'espérais pouvoir réunir le royaume un jour ou l'autre. Forger une alliance. Faire naître une paix durable. À travers toi.
Quoi ?
Mais ce projet n'a plus d'importance.
Ce ne vaut donc pas davantage qu'une de ces reliques volées ? J'étais enfermé ici en attendant de pouvoir vous servir.
Pourquoi déformes-tu mes paroles ?
Vous auriez pu me dire ce que j'étais depuis bien longtemps. Pourquoi avoir attendu ?
Tu es mon fils. Et je ne voulais que te protéger de la vérité.
Oui, parce que je suis le monstre dont les parents parlent à tous leurs enfants le soir. Oh oui, ça explique bien des choses. Pourquoi vous préférez Thor depuis tant d'années ? Vous aviez beau faire étalage de votre amour pour moi ! Vous ne vouliez pas d'un géant des glaces sur le trône d'Asgard !
C'est un extrait de Thor, le premier de Kenneth Branagh avec Tom Hiddleston qui échange avec son père Odin, joué par Anthony Hopkins. Alors en français, ils sont doublés par Alexis Victor et Bernard Deran. Alors Thor qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la phase 1 du Marvel Studios et qui vient juste après l'Incroyable Hulk, un autre film dont j'aimerais parler parce qu'il y a une histoire de droit autour de l'Incroyable Hulk qui n'a toujours pas été résolue. Kira Kitsopanidou, on en parlait pendant AC/DC, Marvel Studios doit payer Universal pour utiliser Hulk.
Tout comme il doit payer Sony pour Spider-Man. En fait, dans la première phase de déploiement de sa stratégie de production, Marvel pensait justement qu'elle allait monter de package de films, qu'elle allait garder le contrôle créatif. Sauf que ça n'a pas marché comme ça. Et ils ont dû laisser une partie de leurs personnages dans leur catalogue au studio, qui ont plus récolté le plus gros de recettes. Et au final, quand ils montent en place la deuxième phase de production pour garder le contrôle créatif, ils se trouvent face au problème qui est le suivant, payer des licences à des studios qui exploitent leurs personnages pour pouvoir intégrer au MCU ces personnages. Mais ils n'ont pas le droit d'exploiter de manière indépendante ces personnages.
Alors ce qui explique, Arnaud Tomassini, que Hulk ne soit développé que dans des films autres que les siens, c'est-à-dire il a un arc scénaristique qui se développe sur les trois Avengers, on le retrouve également dans Thor Ragnarok, et on passe à côté de certaines des plus grandes sagas ou qui sont un peu esquissées, telles que World War Hulk, Planet Hulk, qui ne peuvent pas avoir de film à cause de cette histoire de droit.
Bah, pas de film solo, clairement, mais effectivement, Hulk peut être intégré dans tout le reste des films du MCU, où justement tu dis qu'il y a des storylines qui sont éclipsées, mais Kevin Feige et toutes les équipes de production de Marvel Studios arrivent quand même à les intégrer. Je pense, du moment où tu parles de Planet Hulk, qui a quand même droit à une version condensée de son arc dans Thor Ragnarok, par exemple.
J'explique à l'auditeur que Planet Hulk est un arc scénaristique du comics où Hulk, étant considéré comme trop dangereux pour la Terre, est envoyé par un groupe de super-héros nommé les Illuminati, Black Bolt, le professeur Xavier, Red Richards. Il est envoyé sur une autre planète où il est censé ne pas faire de mal, mais manque de chance, il tombe sur une planète extrêmement compliquée où il va devoir livrer des combats de gladiateurs avec notamment le surfeur d'argent, etc. Je vous conseille instamment de le lire et pourquoi pas de passer dans la boutique de Jimmy Bismuth.
Quelle riche idée,
n'est-ce pas? Alors ensuite, cette phase 1 a pour feu d'artifice final le premier Avengers réalisé par Joss Whedon, Captain Popcorn. Avengers réalisé par Joss Whedon, c'est quand même un des événements de la culture super-héroïque cinématographique de ces dernières années.
Ouais, c'est un gros événement. Il y avait une énorme attente qui avait été créée du fait du bon succès des films précédents du MCU. Et là, on a prouvé que c'était capable de faire ça. Il a prouvé à tous les autres studios que son idée fonctionnait parfaitement. Et c'était vraiment ça avait bien commencé avant, mais c'était vraiment le début de la gloire financière pour leur projet, quoi. Ça a marqué l'imaginaire de toute une, de plusieurs générations, en fait. Ceux qui connaissaient déjà d'avant, comme nous, Frédéric, qui en est vieux de la vieille, hein, par exemple, mais des plus jeunes qui ont découvert ça, qui ont complètement replongé à fond dans ces univers. Mais, et puis, il faut pas me lancer sur Hulk et Planète Hulk et tout, parce que c'est plus du massacre, hein, ce qui a été. Moi, je suis un gros fan du MCU, mais Hulk, faut pas me lancer là-dessus, hein, attention.
Mais c'est bien d'avoir des combats. Et alors, on n'a pas parlé non plus du casting qui s'est étoffé, parce que autour de Robert Downey Jr., une des grandes singularités de Marvel Studios, c'est d'afficher quand même un casting 3 étoiles. Alors, il y a des jeunes acteurs qui ont été intégrés, Chris Hemsworth, australien, Scarlett Johansson, qui est apparu dans Iron Man 2 pour incarner la Veuve Noire, Chris Evans, qu'on avait déjà vu dans d'autres franchises de super-héros chez des studios concurrents, notamment La Torche dans Les 4 Fantastiques, un film qu'on peut oublier,
qui existe,
oui. Mais qui existe, voilà, qui a le mérite d'exister, mais qui avait également joué Losers,
oui,
je crois.
Dans The Losers, oui.
Et effectivement, dans Avengers Endgame, qui est sorti il y a peu, on en arrive à un point où on peut voir apparaître Robert Redford, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer. Le casting chez Marvel Studios, c'est quand même de la folie.
Mais comme tu le disais juste avant, il y avait Anthony Hopkins dès le premier Thor. Donc, par rapport peut-être à une forme de snobisme qu'on pouvait avoir envers les films de super-héros, Marvel Studios a réussi à convaincre quasiment, ouais, énormément de personnes qui voulaient un peu s'en tenir écartées de venir jouer dans ces grosses productions, puisque j'irais pas dire qu'il y a une forme de noblesse maintenant à faire partie du MCU, mais clairement l'impact populaire est tel que tu peux te permettre d'aller dans des gros blockbusters. À des centaines de millions de dollars d'entrée, sans que ça soit forcément un risque. L'époque, quand même, enfin, même s'il y a quelques exceptions encore, mais l'époque, justement, des Fantastic Four, des Catwoman, tout ça, est révolue parce que Marvel Studios a montré quand même une certaine, une façon de faire des films assez carrés pour que ce soit pas des gadins et que ça n'impacte pas trop ta carrière.
Alors, nous sommes toujours avec l'enseignante chercheuse Kira Kitsopanidou, le vidéaste Captain Popcorn, le journaliste et rédacteur de Comics Blog Arnaud Tomasini et le gérant de la librairie Comics Corner Jimmy Bismuth. Je suis entouré par des experts, mais l'êtes-vous vraiment? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser 3 questions extrêmement pointues concernant Marvel Studios. Saurez-vous y répondre? Marvel Studios et Disney, avec Avengers Endgame, ont désespérément cherché à battre le record d'Avatar au box-office. Est-ce que quelqu'un leur a dit que désormais Avatar, c'était à eux aussi?
Ah, moi, je pense que, ouais, ils sont... Mais c'est très rigolo, c'est comme les gens qui disent « Ah, mais j'espère que Alita va couper l'herbe sous le pied et tout. » Mais les gars, vous savez que Alita, finalement, directement, ça leur apporte de l'argent aussi. Enfin bon, c'était... C'est rigolo, mais Monopole, j'irais pas jusque-là quand même. Moi, je suis pas sûr.
On est 40, pas loin quand
40%
même.
Maintenant de la production hollywoodienne est faite par Disney. Après, c'est le genre de
c'est en box-office, les 40%, non, c'est pas en termes de en nombre de films, je pense.
Oui, c'est en termes de production.
De production.
Ouais.
D'accord.
Mais c'est bien parce que ça permet d'alimenter des guéguerres qui feront discuter et débattre et se prendre le chou, et ça permet de faire vivre quelque part la pop culture. Mais c'est vrai que si tu prends du recul, tu vois que tous ces films-là maintenant appartiennent au même studio. Ça n'a pas besoin d'être. Après, Avatar n'appartenait pas à Disney quand il est sorti, donc c'est relativement légitime de vouloir jouer les guerres de gros sous là-dessus.
Black Panther a été pensé pour la communauté afro-américaine, Captain Marvel pour le public féminin, Shang-Chi prochainement pour le public asiatique. Est-ce que le public raciste peut espérer un film sur Crâne Rouge, le super soldat nazi ennemi de Captain America? Jimmy Bismuth,
on peut
mais l'envisager. C'est un public aussi.
Non, bien sûr, c'est un public. Est-ce que c'est un public qui se va au cinéma? J'imagine que oui, finalement. Pas besoin d'avoir une âme pour aller au cinéma. Oui, on peut imaginer ça. On peut imaginer un film, je sais pas, sur Poison Ivy, si on va aller du côté de DC pour les véganes. On peut tout faire.
Spécial dédicace aux fadas qui ont remonté Avengers Endgame en débarrassant le film, voilà, de toutes les interactions avec les femmes ou les personnages issus de la diversité, parce que ça leur plaisait pas.
Ouais, beaucoup de travail pour pas grand-chose.
Ouais, voilà, vraiment, vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, vraiment.
Et ça fait plus qu'1h30. Cela dit, Warner a une carte à jouer, parce qu'ils ont Captain Super Nazi chez DC Comics, qui est un bien assez obscur, mais pourra leur plaire aussi.
Voilà, Disney s'apprête à lancer Disney+, une plateforme payante type Netflix, qui va distribuer des contenus Disney exclusifs. Mais ça existe déjà, et ça s'appelle le cinéma, non?
Ouais, mais on peut pas zapper au cinéma. C'est ça la grosse différence. On peut pas mettre sur pause.
C'est ça la différence.
Le temps d'aller chercher son sandwich.
Il y a pas d'abonnement, mais maintenant il y a des abonnements au cinéma aussi, donc ça marchait pas.
Alors maintenant, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Positif de Fouki.
ma maman dit dans la vie sois pas négatif. So je suis positif, yeah je suis positif. Mon papa m'a dit dans vie sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Workman les jours fériés, wow, wow. Je peux avoir de remords, même c'est pour ça que je travaille fort. Pas quoi de bien avant maman, wow, wow. On garde le smile, pas juste pour la night, yeah. Faut mettre les efforts, yeah. Je m'échappe au Goliard, yeah. Et juste une profession, yeah. J'essaie d'être comme personne, yeah. C'est pour ça que j'ai percé, yeah. Soupçon de percé, yeah. Plume fort dans le cabanon, hey. First place au marathon. Pendant que tu fais des by round, moi j'ai work hard, tu restes strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. C'est le du bon pied en matin. Rien à foutre des chiales. J'ai le talent, puis j'ai chance. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Work my mes jours fériés. Wow, wow. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Wow, wow. J'vois que c'est les cours pour work le rap. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais à des rêves. Mais non, la zik est pas pour faire. C'est bien triste, la vie c'est pas comme un jeu. Des fois t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alexandre bienheureux. Il faut work out pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir racheter du temps. Pour recommencer demain. Up, bang, up, bang. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Wow, wow. J'veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Wow, wow.
C'était Fouki avec Positif.
Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter.
Bonjour. En quoi puis-je vous être utile?
Oh, je regardais ces objets anciens. On raconte que vous êtes la spécialiste.
Ah, oui, on peut dire ça.
Ils sont magnifiques. Celui-là, il vient d'où?
De la tribu Ashantifo, l'actuel Ghana. 19e siècle.
Ah ouais? Et je peux savoir d'où il vient, celui-là?
Celui-là vient d'une tribu Edo du Bénin, 16e siècle.
Et maintenant, parlez-moi de celui-là.
Oh, c'est aussi du Bénin, 17e siècle. Le peuple Fula, il me semble.
Non.
Je vous demande pardon.
Des soldats anglais l'ont bien sorti du Bénin, mais ça vient du Wakanda. Et c'est du vibranium. C'est pas la peine de vous exciter, je vais vous le prendre.
Ces objets ne sont pas à vendre.
À votre avis, comment vos ancêtres les ont eus? Vous croyez qu'ils les ont payés? Ou vous croyez qu'ils les ont pris, comme ils ont piqué tout le reste?
Monsieur, je vais devoir vous demander de partir.
Vos agents de sécurité me quittent pas des yeux depuis que je suis entré. Mais vous, vous savez même pas ce qu'on a mis dans votre verre.
Vous avez reconnu Black Panther avec Michael B. Jordan qui interprète Killmonger et doublé en français par Duke Coma. Alors en 23 films et en 10 ans, c'est énorme, hein, y a eu énormément de, à dire et à voir. Et forcément, cette surenchère de films, il y en a qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas.
Ce que Marvel est en train d'accomplir est assez incroyable puisque ils exportent au cinéma l'interconnexion de leur univers en bande dessinée qui a fait tout leur succès dans les années 60. Et attention parce que ça limite, je trouve, les possibilités créatives des films. Et en plus, il y a un effet de contagion à Hollywood qui fait que tous les studios sont maintenant obnubilés par ce qu'on appelle les univers partagés.
En deux mots, les super-héros commencent à en avoir jusque-là.
Les films ne sont que des épisodes d'un vaste ensemble, comme une série télé finalement. Il y a une sorte de sérialisation des films et du cinéma que moi je trouve un petit peu préoccupante.
Et je pense qu'il y a des beaux films qu'il faut défendre. Je trouve que ce film est absolument insuffisant, totalement d'une vulgarité. On dit que c'est léger, que c'est plein d'humour. Ça m'a complètement échappé.
Ce type de film me tombe des yeux parce que justement, il n'y a pas de mise en scène dans les scènes d'action.
Non, mais la raison,
les scènes
bien
d'action,
sûr,
évidemment, sont faites comme ça par des plans qui durent une fraction de seconde. Ça dure même pas 3 secondes comme dans les clips. Donc ça fait presque comme des héros d'animation, c'est le cas de le dire. Tellement ça va aller vite, tellement il faut pas perdre de temps.
On en fait des tonnes, ça dure 2h30 et franchement, il y a 2 heures de trop.
Alors on a entendu plein de critiques sur l'uniformisation d'un style Marvel Studios, mais également avant la séquence troll, on a pu entendre un extrait de Black Panther qui montre aussi quelque chose de très très calculé de la part de Marvel Studios et de Disney, parce qu'on n'a pas dit qu'au moment d'Avengers, Marvel Studios a été racheté par Disney, et ça c'est un élément très important, c'est qu'aujourd'hui il y a aussi une envie de la part de ces studios de faire des films qui s'adressent à certains publics. Donc là il y a Black Panther qui a été un carton monumental, et Black Panther qui parle d'appropriation culturelle dans la bouche de Killmonger, or c'est principalement ce que fait Disney partout, tout le temps, c'est-à-dire avec même en forme de dessin animé, Mulan prochainement, le Roi Lion, donc j'aimerais poser plusieurs questions sur le style Marvel Studios. Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de uniquement pensé, marketé, ou il y a des véritables auteurs derrière tout ça? Captain Popcorn?
Les deux. C'est très pensé, très marketé, mais t'as aussi l'une des forces, c'est ce qui a permis à ces films d'autant fonctionner, c'est qu'il y a aussi à certains réalisateurs, en tout cas, une assez grande liberté créative qui a été laissée. Évidemment, je vais sortir la pancarte James Gunn, que tout le monde veut. C'est facile, mais c'est
oui, quand même... Oui, il y a Edgar Wright aussi, avec Ant-Man.
Oui.
Mais il l'a pas fini.
Mais du coup, non, mais il l'a pas fini, justement.
Oui, il l'a pas fini, ok. Non, mais certes, mais en fait... On dit qu'il y a une uniformisation, etc. Mais à l'intérieur, en fait, le super-héros, c'est un film de genre, mais ils ont réussi à faire des films de genre à l'intérieur de films de genre. Donc, on a du film d'espionnage, on a du film science-fiction, on a de la comédie avec Ant-Man. Pour l'espionnage, c'était évidemment Winter Soldier. Donc, pour moi, il y a une forme de diversité. Après, sur les couleurs, la réalisation, il y a une forme il y a un ton commun, mais après, est-ce que c'est plutôt intelligent pour un univers partagé, quoi.
Après, je me fais l'avocat du diable, justement. Dans les comics, dans l'univers Marvel, il y a aussi une uniformisation des couleurs, il y a un éditeur, il y a une forme de continuité à respecter. Alors maintenant, ils s'en sont un petit peu affranchis. Mais initialement, pendant très longtemps, les comics étaient quand même aussi chapeautés par des éditeurs qui étaient très, très influents sur l'histoire. Jimmy B. Smith.
C'était exactement la même formule. Et si on voulait de l'original, un traitement original sur un personnage qu'on avait vu et revu, fallait aller sur des auteurs qui venaient de la scène indépendante et qui avaient par différents biais et moyens carte blanche pour faire un peu ce qu'ils veulent sur les personnages, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des petites bébites. Mais globalement, oui, c'est très uniforme dans les comics, et c'est finalement très logique que ça soit aussi le cas dans les films, surtout que ça marche. Je veux dire, si ça marchait pas, peut-être qu'ils auraient changé quelque chose, mais ça marche.
Oui, mais ça marche. Et Kira Kitsopanidou, vous nous parliez des différents marchés que Marvel Studios cherchait à conquérir, et notamment le marché chinois.
Oui, tout à fait. La Chine actuellement pèse pour Endgame, si on prend le dernier volet d'Avengers, à peu près 32% des recettes mondiales. Ça veut dire autant que le box-office américain du film. Et si on remonte à 10 ans auparavant avec Avatar, ça pesait à peine 10%. Donc déjà, les recettes mondiales pèsent plus de moitié, voire 60% des recettes globales d'un film. Mais si on prend juste Endgame et sur les 12 semaines d'exploitation, c'est énorme.
Est-ce que ça veut dire que le public chinois va plus au cinéma désormais, ou que la Chine a ouvert un peu plus les portes à des productions venant de l'extérieur?
Mais il n'a pas tellement ouvert les portes aux productions internationales, même si effectivement le quota s'est un peu assoupli ces dernières années. Mais c'est surtout qu'il y a un boom de construction des salles qui porte la progression de la fragmentation en Chine, qui avoisine celle du box-office américain, voire le dépassera d'ici quelques années. On l'attendait déjà il y a 2 ans, ce dépassement est en train de se produire.
Arnaud Tomassini, donc on a vu Black Panther qui avait en ligne de mire le public afro-américain, et puis la communauté noire, la diaspora noire un peu partout sur la planète. Mais il y a eu également Captain Marvel, où on a voulu jouer la carte, parce qu'on a vu les concurrents avec DC Comics et Warner qui ont sorti Wonder Woman. On a vu que ça cartonnait, et Marvel voulait pas rester en reste et a sorti Captain Marvel. On en est où de cette envie d'aller conquérir de nouveaux publics?
Bah, elle est en pleine progression, elle n'est pas prête de s'arrêter. Il faut juste savoir après à quel public tu veux vraiment t'adresser, savoir si tu dois le cibler uniquement lui ou au risque de t'affranchir en fait d'une autre partie du public. Mais enfin, concernant Captain Marvel, c'est juste qu'ils étaient en retard en fait. C'est marrant parce que Marvel Studios a quand même été pionnier, on va dire, dans l'établissement de cet univers partagé et dans le cinéma de super-héros moderne, réellement moderne. Et c'est vrai qu'ils ont été pris de court du fait d'avoir eu ben, déjà 16-17 films et pas avoir une seule tête d'affiche féminine. Et donc ont décidé de rattraper le pas, en se prétendant en plus un peu précurseur là-dedans, alors que la concurrence avait fait de même 2 ans auparavant. Donc maintenant, comme tu l'as dit avant, il y a Shang-Chi qui doit arriver pour séduire de plein fouet le public asiatique, même si effectivement avec les Shidden Game, on voit qu'il n'a pas besoin de plus que ça pour être séduit. Il faudra voir après s'il y a d'autres communautés ciblées. Je sais que la communauté LGBT attend aussi une réelle mise en avant et une implication vraiment de ces thématiques dans les films Marvel Studios, parce que pour l'instant, ça reste encore très léger et ça montre que malgré leur dominance sur le box-office et sur la pop culture, ils ont encore énormément de chemin à faire. Ils sont pas aussi progressistes et aussi évolués qu'ils aimeraient le faire croire. Parce que même dans Captain Marvel, au final, les thématiques développées féministes dedans peuvent être largement... on peut largement rediscuter de leur efficacité.
Oui, mais tout comme on aurait pu aussi discuter de leur efficacité dans Wonder Woman, qui oui. n'est pas si progressiste que ça,
non,
finalement.
Non plus. Mais même pour Black Panther, il y a des choses à redire. Il y a énormément de choses à redire. Même si je trouve que c'est vachement bien, au moins de faire ces pas en avant. Faut les faire. Si eux ne le font pas, qui va les faire?
Exactement. Kira Kitsopanidou.
Finalement, on a le même conservatisme qu'Hollywood. Hein, et on est de la même dialectique, uniformisation et différenciation. Hein. Hollywood faisait ça dans son âge d'or. Hein, servir différentes communautés des spectateurs, cibler tel type de public, construire des genres pour tel type de public. Hein, on est vraiment dans une revisite de la stratégie classique hollywoodienne.
C'est ça, c'est genre. Ouais.
Je suis fier de toi. Tu as fait des progrès ahurissants depuis que je t'ai récupéré. Mais est-ce que tu saurais contrôler tes émotions assez longtemps pour me battre? Ou est-ce que tu es incapable de te maîtriser comme d'habitude? Je te l'ai toujours dit, tu seras prête le jour où tu seras capable de te mesurer à moi, à main nue. Allez, c'est le moment. Allez! C'est le moment, verse! Arrête la pyrotechnie et prouve-le! Prouve-le-moi que tu peux te battre!
Je n'ai rien à te prouver.
Captain Marvel, Brie Larson face à Jude Law, doublé en français par Jean-Pierre Michael et Brie Larson est doublé par Elisabeth Ventura. Alors, on est arrivé à un point de l'histoire de Marvel Studios où, avec Endgame, il y a eu ce feu d'artifice qui a bouclé comme ça 10 ans d'un arc scénaristique qui commençait avec Thanos et ce qu'ils appellent la saga d'Infinité, sur les pierres d'Infinité dont Thanos avait besoin pour sacrifier la moitié de l'univers. Qu'est-ce qui s'annonce pour Marvel ? Là, en ce moment, il y a une guerre qui ne dit pas son nom, terrible, entre Sony et Marvel Studios autour du personnage de Spider-Man. Il y a notamment une exigence demandée par Sony que le dernier Spider-Man fasse plus d'un milliard, c'est ça ?
C'est une rumeur qui dit ça, hein. Il n'y a pas de certitude a priori.
Mais voilà, mais c'est quand même bien, on entend ça souvent.
Ouais, mais bon, en tout cas, il va l'atteindre dans le milliard. Hein. Mais oui, c'est assez bizarre pour savoir ce qui va venir pour la suite. Ben, il y a le Comic Con de San Diego, hein, c'est le 20 juillet. Pour nous en France, c'est le 21 juillet dans la nuit. Et ils vont annoncer des choses, c'est assez attendu comme panel. On sait qu'il y a une grosse franchise qui va arriver, c'est The Eternals, les Éternels. Ils comptent beaucoup là-dessus, il y a des rumeurs de casting assez folles.
Qui sont la race dont est originaire Thanos.
Mais bon, c'est un gros pari encore une fois, hein, parce qu'en termes de comics, les Éternels, c'est rien du tout. C'est, en termes de créativité, ouais, il y a Jack Kirby et tout ça, dans les 70, c'était très très chouette. Mais en termes de connaissances sur le grand public, c'est rien du tout, donc ils vont encore... C'est comme pour les Gardiens des Galaxies, ils veulent faire un truc, un gros carton box-office avec des personnages très peu connus.
Arnaud Tomassini.
Le gros défi de Marvel Studios pour les prochaines années à venir, en fait, t'en as deux, c'est déjà de créer les nouvelles franchises qui vont faire le succès, puisque on ne peut pas se reposer que sur l'héritage en fait qu'ont laissé Robert Downey Jr. ou Chris Evans. Mais moi, je trouve que le plus intéressant, c'est Disney Plus et les séries télé, et de voir s'ils vont réussir vraiment avec Disney Plus à faire l'univers connecté ciné et télé qu'ils n'ont pas réussi à faire avec Marvel avec Televisions Netflix. Et Agents of S.H.I.E.L.D. ou avec Netflix aussi, puisqu'ils voulaient pas se répondre. Là, c'est vraiment Marvel Studios et Feige qui supervisent la production, et ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'ils vont réussir à pousser les gens à s'abonner à ce service, parce que les histoires qu'ils vont raconter dedans quelque part, on va devoir aller les regarder pour comprendre ce qui se passera ensuite dans les films. Je pense notamment à l'évolution, par exemple, de Sam Wilson à la fin de Endgame. Est-ce que, par exemple, son évolution pourrait être racontée dans une série Disney Plus pour qu'on le voit apparaître dans un autre rôle après dans un prochain film sur grand écran?
Et justement, si on part de ce principe que désormais tous les 6 mois, il y a un film estampillé Marvel Studios qui cartonne au cinéma, entrecoupé de séries exclusives sur une plateforme type Disney Plus, et là-dessus, on rajoute le reste du catalogue Disney, c'est-à-dire une franchise, un Star Wars, une série Star Wars, un dessin animé Pixar, une réadaptation en image de synthèse avec des acteurs d'un dessin animé classique. Il faut aussi comprendre que pour toute une génération, je parle de gens plus jeunes que nous, il y a, mine de rien, un formatage à un seul producteur, à une seule entreprise. Est-ce que ça, pour le futur, pour les citoyens que ça va devenir, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu terrifiant à avoir un seul producteur qui gère tout?
Alors c'est vrai que c'est plutôt flippant, mais la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi voir les films d'hier. Et du coup, ce sera aussi à nous, si on veut vraiment prendre la responsabilité que... future génération voit autre chose que des films, des séries, des dessins animés qui viennent d'un seul projet. Ouais, bah ce sera à nous de leur montrer ce qui se faisait avant, qui a plutôt bien vieilli finalement et qui tient la route, et de créer cette diversité par nous-mêmes, ou même d'aller voir sur les productions qui ne sont pas américaines. Si on devait, un des concurrents de Disney sur le film d'animation, ça reste encore les studios Ghibli. Même s'ils sont un peu, ils font plus grand chose maintenant, mais ils restent.
C'est-à-dire qu'ils tiennent intégralement sur Hayao Miyazaki, qui n'est plutôt jeune.
Voilà, c'est ça. Mais ça reste de très beaux films qui ne vieillissent pas, puisqu'ils sont extrêmement bien réalisés. Et pour les films de super-héros, il y a toujours des Dark Knight et autres.
Mais je crois que les studios Ghibli sont distribués à l'international par Disney aussi, crois.
Ouais, mais alors distribuer finalement, est-ce qu'ils ont ça reste de la distribution, mais oui, c'est vrai que ça va être très compliqué, ça l'est déjà, ça commence déjà à l'être.
Captain Popcorn.
En termes de producteur unique, moi, ne serait-ce qu'en misant sur l'intelligence des gens de chez Disney de manière générale, ils savent très bien eux-mêmes qu'ils doivent diversifier leur contenu. Donc même si déjà je suis pas d'accord pour dire que ça va être le seul producteur, pour moi c'est un peu, oui, ils ont un gros pourcentage, mais il n'y a pas qu'eux non plus, j'ai pas cité tous les autres, d'autres seraient mieux placés pour le faire, mais ils vont diversifier leur contenu, même ne serait-ce que sur Hulu, on sait qu'ils mettront leur contenu rated R, donc pour les, je sais plus, à partir de 16 ans et plus, j'en sais rien. Voilà, ils sont pas complètement stupides. Moi, je trouve que dire que, j'en suis sûr, quelqu'un, que Mulan, ça ressemble au Gardien de la Galaxie, mais pas du tout, quoi.
Ah, je ne parle pas de ressemblance, je ne parle pas du tout de style, je sais très bien d'ailleurs, la réussite de Marvel Studios découle de leur envie de diversité, parce qu'il y a eu plein de styles différents. Je parle du fait que tout profite à une seule source. C'est surtout ça.
En termes de business, c'est sûr que c'est marquant.
Il y a eu un édito récent qui était sorti dans le Hollywood Reporter ou Variety qui expliquait en fait que les autres studios, justement, puisqu'il y a Disney en face, en fait, allaient justement mettre plus d'efforts dans la créativité et dans le fait de produire des films à plus petit budget où les risques seront moins gros, et donc il y aura plus de liberté qui sera apportée aux réalisateurs, aux équipes créatives, parce que en fait, eux peuvent se permettre maintenant de faire ces petits films qui prennent plus de risques, et parce qu'ils ne peuvent pas lutter en fait sur le marché du gros blockbuster. Donc il y a peut-être un bien à ce mal, si on veut le considérer comme mal, c'est de se dire que les autres studios vont pouvoir peut-être se donner plus d'efforts par rapport à un Disney qui est omniprésent sur le blockbuster. Et on le voit déjà même sur des gros studios comme Warner Bros, qui a l'air de vouloir diversifier son approche de l'adaptation de comics avec des projets comme Joker ou Birds of Prey, qui seront notamment justement rated R. Donc rated R, c'est non seulement par rapport à l'âge à laquelle tu peux le voir, mais ça veut aussi dire que techniquement c'est des plus petits budgets, donc des risques qui sont moins gros pour les actionnaires, pour les producteurs, et donc a priori plus de marge de liberté dans ce qui est raconté.
Alors dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on va écouter Nick Waterhouse qui nous interprète I Feel an Urge Coming On.
Yeah.
c'était Nick Waterhouse. Et maintenant, on joue.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Et aujourd'hui, on a Loïc au téléphone. Bonjour Loïc.
Bonjour Frédéric.
Alors, fan de Marvel Studios?
Oui, assez, oui. Et j'ai pas dû... J'ai loupé peut-être un ou deux épisodes au cinéma, mais j'ai tout rattrapé en DVD derrière.
Bah, on est nombreux à les avoir vus. Si jamais on peut vous faire un rapide résumé, n'hésitez pas. Hein. On est là pour ça. Hein. Lequel est votre préféré?
Je resterai fidèle au premier, c'est Iron Man quand même. Le tout premier était vraiment vraiment génial, même si après, au niveau réalisation, il y a des gros moyens qui ont été mis, mais l'histoire du premier m'a quand même bien accroché.
Parfait. Alors, vous allez devoir répondre à trois questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, pas de problème, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est bon ?
Très bien. C'est bon.
C'est parti. Dans l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, le général qui poursuit Bruce Banner s'appelle, réponse A, Emil Blonsky, réponse B, Thaddeus Ross, réponse C, Rick Jones.
Réponse B.
Thaddeus Ross.
Oui.
Eh bien, c'est bien évidemment la réponse B, le général Ross, interprété par William Hurt, que l'on retrouve dans Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Question suivante. Dans Avengers Infinity War et Endgame, quel membre des Goonies interprète Thanos?
Josh Brolin.
Oh là là, mais j'étais sûr, en même temps c'était simple. Hein. Effectivement, c'est Josh Brolin qui interprète également Cable dans Deadpool 2, un autre film Marvel produit chez les concurrents qui viennent de se faire racheter par Disney, la Fox. Alors, dernière question, ça va être très simple à mon avis, on va vous passer un extrait d'une chanson. On écoute. De quel film cette chanson est issue? C'est assez simple. Hein. Ah non, il y a des bas, il y a des bas.
Ah ouais, il y a un bas, il y a un trou. Bah je vais faire appel à mon joker.
C'est très bien Loïc, il faut faire comme ça. À qui vous voulez faire appel?
Captain Popcorn.
Ah, mais moi aussi j'avais un trou, mais je crois que ça me serait revenu sur la fin, mais c'était les Gardiens de la Galaxie 2.
Et ben voilà, c'est ça, The Chain et par oui. Fleetwood Mac, tiré de la BO des Gardiens de la Galaxie 2. Et bien bravo Loïc, vous avez gagné le livre Dans les coulisses de Marvel Cinematic Universe Paris aux éditions Third.
Merci beaucoup Frédéric.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt Frédéric, au revoir.
Alors, mes chers invités, j'aimerais vous poser une question. J'ai évoqué durant le jeu le rachat de la Fox par Disney. Et ça veut quand même dire aussi la possibilité de remettre une pièce dans la machine avec les franchises des 4 Fantastiques et des X-Men.
On sait qu'il faudra un peu de temps pour ça. Il a prévenu pour limiter les attentes, même si certains espèrent encore pour le Comic-Con dont je parlais, une annonce sur les 4 Fantastiques notamment. Mais sur les X-Men, on sait qu'il faudra plusieurs années, au moins 5 ans si ce n'est plus. Mais oui, il y a un potentiel de ouf en termes de crossover. Avengers contre X-Men, wow, 5 millions de box-office mondial.
Arnaud Tomassini.
Non, c'est vrai que ça va alimenter énormément de spéculations, de théories, que les sites clickbait vont s'en donner à cœur joie. Mais c'est vrai que Feige a dit que tous les films de la phase 4, quand ils ont été développés, déjà il y a quelques années, en fait, n'avaient pas encore pris en compte ce rachat de la Fox. Donc on peut penser que des plans vont changer, mais il ne faut pas s'attendre à ce que des choses arrivent d'ici les 3, 4, 5 prochaines années. Et en plus, la licence X-Men est quand même très mauvais état pour le moment, avec le flop qu'a fait Dark Phoenix. Donc même si c'est Marvel Studios qui les récupère, qui disent on va refaire des X-Men, dans l'inconscient collectif, X-Men, ça reste encore des films. Les deux derniers films très mauvais, donc...
Merci beaucoup, merci à tous. Merci Kira Kitsopanidou, merci Captain Popcorn, Arnaud Tomassini et Jimmy Bismuth. Comme toujours, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Marvel Studios, ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag Blockbuster Effi. On se retrouve demain pour parler du Love Symbol de Minneapolis, plus connu sous le nom de Prince.
Pardon, j'ai dû mal entendre ou vous êtes d'accord avec moi?
Ah, alors je dois me tromper.
Ah non, ce qui est dit. Merci. C'est sans précédent.